Alors, ce matin, la saison de l'année et le décor imposent, nous allons lire ensemble dans Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ce dernier verset, le verset 14, est un verset bien connu, ben tout le passage est bien connu, mais en particulier ce verset 14 qui est souvent cité « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Alors, à cette période de l'année, souvent cité dans sa version ancienne, basée sur quelques manuscrits qu'on utilisait à l'époque, comme dans la traduction Osterwald, qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » Un passage, un verset qu'on trouve souvent cité, soit sur des cartes de Noël, soit dans les films de Noël bien mielleux, parce qu'après tout, Jésus est venu, nous dit la Bible, en tant que prince de la paix. Dans la prophétie donnée par Ésaïe, en Ésaïe 9, verset 6, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est donc le message qui est souvent communiqué dans des films de Noël. Mais quand on regarde, non pas les films de Noël, mais les infos, quand on regarde le monde autour de nous, on se rend compte que le monde ne ressemble pas à un film hollywoodien avec toujours un happy end dans chaque situation. Quand on regarde rien que cette année, autour de nous, ben combien de la population mondiale vont passer la saison de Noël sous des bombes, ou en subissant la persécution, ou en étant dans la crainte peut-être de ce qui va venir après les fêtes, qui vont passer Noël dans le besoin et dans la difficulté. Quand on regarde la réalité autour de nous, quelques 2000 ans après la venue du prince de la paix, comment doit-on comprendre alors cette annonce faite des anges, paix sur la terre? Et comment comprendre la mission de Jésus en tant que prince de la paix? Il y a effectivement une fausse piste qu'on puisse suivre, qui est souvent communiquée justement par cette notion un peu mielleuse de Noël. Parce que ce qui est important à se rappeler quand on essaie de comprendre ce que les anges ont annoncé, ce que Jésus est venu faire, il est important de se rappeler tout d'abord que la venue de Jésus au premier Noël n'était qu'une étape dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu ce n'était pas encore la fin de toute chose. Ce n'était pas encore la réalisation de tout ce que Dieu a annoncé. Cette semaine, dans mes lectures quotidiennes, j'avais un passage en Apocalypse à lire, et donc en Apocalypse 10, versets 5 à 7, qui souligne cette réalité que jusque-là, la fin n'est pas encore là. L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, dit Jean, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et, ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc la vision que reçoit Jean, cette révélation qu'il reçoit, c'est que les promesses que Dieu a faites, le royaume qu'il a déclaré à travers ses serviteurs, les prophètes, est prévu une fois que le septième ange, donc tout à la fin, sonnera de la trompette et annoncera la venue, le retour de notre Seigneur. C'est à ce moment-là, nous dit Jean, qu'il n'y aura plus de délai, mais que le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc la première venue de Jésus, la venue de Jésus enfant, né et couché dans une crèche, n'était qu'une étape vers cet accomplissement que Dieu a prévu et que Dieu a annoncé. C'était une étape très importante. C'était l'étape qui rend possible la fin que Dieu a prévue. Mais ce n'est pas encore la fin. Pour ça que les théologiens ont décrit la période dans laquelle nous vivons depuis la venue de Jésus comme étant la période du « déjà, mais pas encore ». Jésus est déjà venu, mais il n'est pas encore venu en tant que grand Messie qui établira son règne sur la terre. Pour ça d'ailleurs qu'à son époque, les Juifs qui attendaient tellement le Messie, pour beaucoup, l'ont raté et ne l'ont pas reconnu. Parce qu'il est déjà venu, mais non pas encore, comme le grand roi victorieux, le grand dominateur qu'ils attendaient, basé sur les prophéties concernant le royaume de Dieu sur la terre. Il y a donc des choses que nous avons déjà, la Bible parle de ces arts de l'esprit que nous avons reçus en tant que chrétiens. Mais la Bible nous dit que pour l'instant, nous n'avons aucune idée, aucune conception de ce que ce sera une fois que le Seigneur Jésus reviendra. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment. Nous sommes donc dans une période du déjà, mais pas encore. Ce jour-là, le jour où Jésus reviendra, le jour où l'ange, le septième ange, sonnera de la trompette, alors effectivement, à ce moment-là, nous connaîtrons cette paix totale sur la terre avec tout ce qui se trouve derrière cette notion de paix, de shalom que le Seigneur a annoncé, cette paix totale qui existera à tous les niveaux sur la terre, que Dieu nous a déjà montré à travers ses serviteurs, les prophètes. Alors, pour ceux qui suivent l'étude biblique sur Ésaïe, il y a des paroles d'Ésaïe que nous avons déjà vues qui nous rappellent et nous montrent comment sera cette paix dans laquelle nous vivons ce jour-là. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, donc la montagne de Sion à Jérusalem, sera fondée sur le sommet des montagnes, deviendra donc le lieu le plus important de la terre, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpents. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Une fois que Jésus revient pour être le roi de toute la terre, basé sur le mont Sion à Jérusalem, la Bible nous dit que là, il y aura effectivement une règne de paix, une règne où la guerre n'existe plus. Et ce sera une paix qui n'existe pas uniquement entre les nations, pas uniquement entre les hommes, mais à tous les niveaux de la création. Dans Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 10, Ésaïe nous parle de ce monde nouveau dans lequel nous vivrons une fois que le septième ange est sonné de la trompette, que Jésus soit revenu et établi l'accomplissement des promesses de Dieu sur la terre. Le loup habitera avec l'agneau. Alors je ne vous encourage pas à tenter le coup déjà, sinon vous allez découvrir très rapidement que nous vivons dans le déjà, mais pas encore. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. La Bible nous dit, et c'est pour cela que dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, dans le chapitre 8, parle de la création tout entière qui soupire après ce jour de la révélation des enfants de Dieu, après ce jour de la résurrection, puisque à ce moment-là, la création entière sera transformée par l'accomplissement des plans et des projets de Dieu, cette paix, ce shalom total qui couvrira toute la terre, tous les aspects de la création. Mais Jésus nous dit qu'il ne faut pas imaginer que ce soit déjà le cas, que ce soit ce qui serait normal à partir de sa première venue en tant qu'enfant. Il y a deux semaines, on a lu Luc chapitre 12 dans le culte. Dans les versets 49 à 53, Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer si elle est déjà allumée? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? » Alors, si on écoute les films Miel de Noël, ah oui, c'est ce qu'on pense. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Et en Matthieu 10, verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Déjà, mais pas encore. Jésus est déjà venu, mais effectivement, il n'a pas apporté la paix sur la terre. Les guerres continuent. La Bible nous dit même que les guerres continueront jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Et la Bible nous dit même que le contexte du retour de Jésus, tout à la fin, au moment justement où ce septième ange va sonner la trompette, ce sera une guerre qui aura comme objectif d'éradiquer une fois pour toutes Israël de l'histoire humaine. Jésus dit, je ne suis pas venu cette fois-ci apporter la paix sur la terre. Il dit même que par sa venue, il y aura une raison de plus pour que les gens ne s'entendent pas, pour que les gens n'aient pas de paix. À cause de ma venue, dit-il, il y aura de la division. 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, entre ceux qui croient en moi et ceux qui me rejettent, entre ceux qui veulent bien me suivre et qui croient que je suis le Messie et ceux qui refusent cette notion. Pour que donc Jésus puisse dire à ses disciples et avertir son Église que même l'Église ne vivrait pas dans une situation de paix sur la terre. Jean 15, verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Et dans le chapitre 16, verset 1, il dit, « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Autrement dit, pour que vous ne soyez pas surpris au point de douter que ce que je vous ai dit est vrai. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Des avertissements de la part de Jésus qui ne vont pas du tout dans le sens de dire vous allez avoir la vie tranquille parce que tout sera paix, tout sera bien, tout sera comme dans un film hollywoodien. Jésus nous dit que ce n'est pas encore le cas parce qu'il est venu dans un monde hostile. Il est venu, nous dit Jean, vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas voulu. Il est venu en tant que prince de la paix mener la reconquête de la terre de celui que la Bible appelle le prince de ce monde, qui est notre ennemi. Et donc jusqu'au moment où cette victoire sera totale, où cette victoire se réalisera lorsque notre ennemi est enchaîné, alors il nous dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Et pourtant, lors de sa naissance, les anges annoncent « Paix sur la terre. » Et Jésus est venu comme prince de la paix. Donc comment doit-on comprendre cela? Comment doit-on comprendre cette annonce et cette mission de Jésus, le prince de la paix? Est-ce que ça veut dire que jusqu'au retour du Seigneur, ces promesses sont uniquement pour le futur et n'ont aucun impact encore sur notre vie? Ben, ce serait oublier le fait que nous sommes dans le déjà, mais pas encore. Il y a la partie pas encore, mais il y a aussi la partie déjà. On vient de lire Jean chapitre 16, verset 1, où Jésus nous dit qu'il nous avertit de ces choses afin que ces choses ne nous troublent pas dans notre foi lorsqu'on voit un monde qui, 2000 ans plus tard, ne connaît toujours pas la paix, pour qu'on ne soit pas troublé, pour qu'on ne doute pas de sa parole. Un peu plus loin dans ce chapitre 16, verset 33, Jésus dit par contre, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, puisque je ne suis pas venu apporter la paix dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Dans Jean chapitre 14, verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc même, dit Jésus, si je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée qui va apporter plus de division, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui reconnaissent Jésus comme Messie, Jésus est effectivement déjà le prince de la paix. Pour le monde, il va falloir attendre son retour pour qu'il établisse la paix sur la terre. Mais pour ceux qui le connaissent, il est déjà prince de la paix. Dans Luc 2, verset 14, justement, avec le développement des traductions bibliques, vous verrez une petite nuance dans ce verset 14. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Paix sur la terre, non pas encore général, ça fait partie du pas encore. Ça fait partie de ce qui viendra lorsque s'accompliront les promesses de Dieu données à travers ses serviteurs, les prophètes, lorsque le septième ange aura sonné la trompette. Mais pour ceux qui le connaissent, pour les hommes qui l'agréent, il peut déjà avoir paix sur la terre. Paix sur une terre qui n'est pas en paix, mais une paix que le Seigneur nous donne, qui n'est pas comme ce que donne le monde, qui est cette paix que lui nous donne et nous lègue. Jésus peut dire, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde donne. Parce que pour que le monde puisse nous donner la paix, il faut qu'il y ait une paix générale. Il faut qu'il y ait paix dans le monde. Lorsque le monde parle de paix, c'est que dans les circonstances, il y a paix. Et donc, c'est une réaction naturelle à cette paix d'être paisible. Mais nous, nous pouvons connaître la paix du Seigneur qui ne ressemble pas à ce paix que le monde peut donner. Mais où notre cœur n'est pas obligé d'être troublé, même lorsque nous passons par des tribulations dans ce monde, comme nous disait Jésus. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, nous montre que lui, il avait appris à connaître cette paix dans son cœur, dans sa vie, quand il dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Il dit « J'ai pas besoin que toutes les promesses soient encore réalisées pour être content et pour connaître cette paix dans mon cœur. J'ai appris, même au sein de mes tribulations, d'être content, d'être en paix, parce que je connais le prince de la paix qui m'a dit « Je te laisse ma paix et je te donne ma paix. » Cette promesse que Jésus donne dans Jean 14, verset 27, de nous laisser sa paix, nous donner sa paix, se trouve dans un contexte particulier, contexte intéressant. Les deux versets précédents nous mettent le contexte de cette promesse. Jésus dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Intéressant, n'est-ce pas, de voir que Jésus donne cette promesse de nous laisser sa paix dans le contexte de dire « Le Saint-Esprit va venir. » Quand je quitte cette terre, quand je monte auprès du Père, j'enverrai le Saint-Esprit et je vous donne ma paix. La Bible nous dit que cette paix que nous puissions avoir, même au sein de la tribulation, même dans un monde qui ne connaît pas la paix, cette paix est le fruit du Saint-Esprit. Ça veut dire, si le Saint-Esprit est en nous, comme nous dit la parole, si le Saint-Esprit habite en nous, et si nous collaborons avec lui, alors la paix va découler de cette relation que nous avons avec lui. Ça fait partie des effets de sa présence dans notre vie. Le fruit de l'Esprit, nous dit Galates 5, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des caractéristiques que le Saint-Esprit développe en nous par sa présence en nous lorsque nous l'écoutons, lorsque nous le suivons, lorsque nous collaborons avec lui. Nous pouvons donc savoir que toute pensée qui vient à l'encontre de ces éléments-là, de ces caractéristiques-là, sont à combattre car ne viennent pas de l'Esprit, mais viennent de notre chair. Et nous pouvons donc choisir d'encourager ces caractéristiques-là dans notre vie avec la foi que le Saint-Esprit va nous aider à les développer, car c'est le reflet de sa nature en nous. Peu surprenant que la paix fasse partie de ce fruit de sa présence en nous quand on pense à ce que Jésus disait à son sujet. En Jean chapitre 14, ces versets que nous venons de lire. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Paix parce que justement le Saint-Esprit nous rappelle les promesses du Seigneur, nous rappelle que ce que le Seigneur dit à notre sujet. Lorsque, effectivement, notre cœur n'est plus en paix parce qu'on est en train de se faire des soucis pour ceci ou cela, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que Jésus nous a dit. Quand il a dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger ou pour les vêtements que vous allez porter, votre vie vaut beaucoup plus que cela, et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc s'il est capable de nourrir les oiseaux et d'habiller les fleurs, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne s'occupera pas de vous? Le Saint-Esprit nous rappelle ce que le Seigneur nous a dit, nous a enseigné, et de là découle la paix. Et puis, par sa présence, donc, il développe la paix en nous. Romains chapitre 14, verset 17 nous rappelle que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Son rôle, c'est de développer cette paix en nous. Jésus va revenir un jour établir la paix sur la terre, établir ce règne de paix, accomplir ses promesses. C'est ce temps de paix où on n'apprendra plus la guerre, où toute la création sera en paix. Mais pour nous qui le connaissons, nous pouvons déjà, même dans un monde privé de paix, connaître la paix dans notre cœur par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit nous conduit au Seigneur dans la prière. Et en Philippiens 4, verset 6, Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans un monde qui ne connaît pas du tout la paix, nos cœurs puissent connaître la paix par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous le permettons de nous conduire dans la présence du Seigneur pour faire connaître tous nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, dans un monde qui est bousculé, qui peut être inquiet, voire inquiétant, la paix est un cadeau précieux. Un cadeau précieux que nous avons reçu du Seigneur. Nous devons reconnaître la valeur de ce que le Seigneur a fait pour nous en nous donnant cette possibilité de connaître la paix, même dans des tribulations. Et dans un monde qui est bousculé, quel meilleur témoignage que de pouvoir démontrer cette paix que le Seigneur met dans notre cœur en toutes circonstances, dans un monde qui cherche désespérément des moyens de paix. Permettons donc au prince de la paix qui est déjà venu pour démarrer cette reconquête de la terre pour le royaume de Dieu. Permettons ce prince de la paix d'accomplir sa promesse de nous donner sa paix par le Saint-Esprit qui nous a donné. Permettons au Saint-Esprit de nous rappeler ce qu'il a dit, de nous conduire à lui dans la prière et de développer en nous ce royaume, ce règne de Dieu qui n'est pas une simple question de manger ou de boire, mais qui est avant tout une question de justice, de paix et de joie dans notre cœur. Un jour, tout œil le verra venir comme prince de paix pour établir le règne de Dieu sur la terre. Que nous puissions déjà le reconnaître comme notre prince de la paix, qui nous donne sa paix et qui établit sa paix dans nos cœurs, en toutes circonstances. Je propose qu'on puisse passer quelques instants devant le Seigneur dans la prière. Remettons justement à lui toute pensée, toute situation qui peut nous empêcher d'avoir le cœur en paix. Et permettons justement au Saint-Esprit de nous rappeler ce que le Seigneur a dit au sujet de notre vie. Et permettons au Saint-Esprit de développer le règne du prince de la paix dans nos cœurs.